Et tout de suite, c'est la revue de presse internationale de Camille Bagnard. Bonjour.
Bonjour.
On commence avec la presse algérienne qui célèbre deux victoires ce matin.
Alors il y a forcément la plus évidente, hein, celle qui prend le plus de place, celle de l'équipe nationale algérienne de football qualifiée hier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en battant la Côte d'Ivoire au tir au but. Hier soir, dans les rues des villes algériennes, les cris de joie footballistique avaient donc remplacé pour un temps les slogans révolutionnaires auxquels le pays nous a habitués depuis le mois de mars. Pour Omar Karoum d'El Watan, c'est l'une des grandes forces populaires du foot, transcender toute une nation pour semer un peu de joie dans ce pays troublé. Abdelaziz Bouteflika a été chassé du pouvoir, écrit l'éditorialiste, mais l'Algérie reste en proie au marasme nourri par les incertitudes du lendemain. Et voilà que le football s'installe et capte toutes les attentions. Le pouvoir politico-militaire forcément en joue, disséminant des écrans géants sur les places des grandes villes algériennes, proposant des charters à ses concitoyens pour aller soutenir leur équipe en Égypte. Mais à croire Omar Karoum, les Algériens ne sont pas dupes, ils ne considèrent plus le football comme la carotte qui fait se mouvoir l'attelage. Alors le programme national, selon El Watan, c'est foot le jeudi et Hirak le vendredi. Retour aux manifestations pour une Algérie nouvelle, libre, civile et démocratique. Voilà un pays au moins qui ne manque pas de but.
Et de une, mais alors quelle est l'autre victoire qui occupe les journaux d'Alger?
Eh bien celle-ci vient de l'autre côté de la Méditerranée, de France, et c'est celle qu'ont enfin conquise les quelques 750 000 Chibani. Pour le rappel du dossier, on pourra compter sur le site info d'Algérie Part. Les Chibani, surnom affectueux qui veut dire cheveux blancs, ce sont ces anciens ouvriers immigrés, aujourd'hui retraités, qui peuvent depuis le 1er juillet, et quel que soit le pays dans lequel ils résident, bénéficier des droits à la retraite et à la sécurité sociale française pour lesquels ils ont cotisé donc pendant toute leur carrière. Un autre journal en ligne, Algérie Focus, confirme l'importance de cette lutte sociale qui aura duré 7 années, car beaucoup de ces vieux messieurs, après avoir construit toute leur vie des voitures, bâti des immeubles ou fait rouler des trains à la SNCF, espèrent à leur retraite, espéraient en tout cas pouvoir finir leur jour chez eux, au pays. Ils peuvent désormais le faire sans perdre leurs droits sociaux acquis en France. Et l'économiste au Maroc s'en félicite aussi. Le Maroc, c'est un autre pays d'origine de dizaines de milliers de Chibani. Ces derniers sont enfin libres, s'emporte le quotidien de Casablanca, libres de vivre où ils le souhaitent avec les mêmes droits que n'importe quel retraité français.
On quitte le Maghreb pour le Soudan, maintenant avec un éclairage nouveau porté par la BBC sur le massacre du 3 juin dernier à Khartoum.
Oui, ce que l'on en avait retenu à l'époque, c'est que des groupes paramilitaires FSR composés pour partie d'anciens miliciens janjaouides qui avaient semé la terreur en 2003 au Darfour, avaient ce 3 juin-là repris du service dans les rues du centre de la capitale soudanaise, Khartoum, donc pour disperser dans le sang les campements de la révolution civile soudanaise en cours depuis le mois de décembre. À l'époque, bien peu de témoignages, bien peu d'images nous étaient parvenus pour prendre la mesure de ces attaques. Internet avait été coupé, aucune caméra de journaliste n'était sur place, mais des centaines de témoins avaient filmé ce qu'ils ont vécu avec leur téléphone portable, et c'est cette matière-là, près de 300 vidéos amateurs, qu'a rassemblé la BBC Afrique.
On June the 3rd, 2019, there was a massacre on the streets of Khartoum. No TV news cameras got close enough to record the carnage.
La BBC qui nous livre ce matin, sous la forme d'une vidéo de 17 minutes, un document aussi glaçant dans ce qu'il montre que novateur dans sa forme. Les auteurs resituent très précisément toutes les images qu'ils montrent sur une carte des lieux. Ils positionnent chaque preneur d'image et l'on passe ainsi de l'un à l'autre pour avoir un point de vue multiple et finalement quasi omniscient sur les événements. Il y a là une vérité qui n'avait pas été montrée, qui surgit sous tous ses angles, et c'est d'autant plus saisissant que c'est la vérité d'un massacre, que certains des manifestants que l'on voit sur ces images, certains même de ceux qui les ont tournés ont été tués ce jour-là. On est au plus près avec eux de l'événement, dans une immersion, une subjectivité très forte. Expérience à vivre donc sur le site de la BBC. Bien sûr, vous trouverez le lien sur le site de cette revue de presse. Et c'est une réflexion enfin sur la manière de faire de l'information sans journaliste sur place, mais avec tout de même une grosse équipe de journalistes, de recherchistes, de vidéastes de la BBC pour faire parler ensemble toutes ces images amateurs.
Et sur le site, ça veut dire sur franceculture.fr, à la page de votre revue de presse internationale Camille Magnard. Enfin, la photo du jour en Allemagne, c'est celle d'une chancelière assise.
Angela Merkel qui a dérogé, oui, au protocole pour la première fois hier, c'est ce que note Handelsblatt. Elle accueillait la nouvelle première ministre danoise, Mette Frederiksen, et les deux dirigeantes ont écouté les hymnes nationaux assise sur deux chaises blanches qui avaient été installées là sur le tapis rouge par les collaborateurs de la chancelière. C'est donc ainsi, note le quotidien économique allemand, qu'Angela Merkel a décidé de poursuivre son mandat à la tête du pays en tentant tout de même d'éviter que ne se reproduisent ces impressionnantes crises de tremblement dont elle est prise parfois, trois déjà en trois semaines, des crises qui s'emparent d'elle quand elle doit rester debout très longtemps. « Je vais bien, rassurez-vous, je suis comme n'importe qui, je prends soin de ma santé. » Voilà ce qu'elle a répondu hier aux journalistes de Die Welt qui n'ont pas manqué de l'interroger après cette séance de chaise musicale. Mais forcément, plus on essaye de rassurer, plus on inquiète. Et Die Welt se demande avec tous les Allemands à quel point est-ce que notre dirigeante est malade. Nos partenaires européens et les hommes forts de la planète, les Poutine, les Trump, ont eux aussi forcément vu ces preuves de faiblesse montrées par Angela Merkel. N'en déplaise à la chancelière, son état de santé est devenu un sujet politique, analyse le premier quotidien régional allemand, la Westdeutsche Allgemeine Zeitung, quand sa collègue du Sud, la Süddeutsche Zeitung, elle, se risque à diagnostiquer les signes d'un surmenage chez Angela Merkel. Mais la Süddeutsche Zeitung conclut qu'arrivé à ce stade, il n'y a qu'un bulletin de santé complet qui pourrait dissiper le trouble.
Merci beaucoup Camille Magnard. Revue de presse à retrouver donc sur franceculture.fr.